Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque on diffuse l'enregistrement public qu'on a fait le 9 janvier dernier pour les 10 ans du CDEM, le centre de documentation de l'école militaire. Donc un enregistrement autour de grands classiques de la stratégie avec Jean-Vincent Olyndre, Martin Mott, Béatrice Hainaut, Elie Tenenbaum et le général Durieux. Simplement pour vous dire que donc vous allez entendre le son un peu différent, il y a quelques problèmes de son sur les premières minutes, puis ensuite ça va mieux le temps qu'on trouve les bons réglages. Merci à tous ceux qui sont venus et bonne écoute à tous.
Donc, bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et c'est aujourd'hui une émission un peu spéciale, évidemment, puisque nous enregistrons en public à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans du Centre de Documentation de l'École Militaire, le CDEM, où nous nous trouvons actuellement en compagnie d'un valeureux public que je remercie beaucoup d'avoir fait l'effort de venir, puisqu'ils ont dû faire face non seulement à la grève des transports, mais aussi au dédale de l'intérieur de l'école militaire, pour lequel, enfin, faut dire, aucun civil, ni aucun militaire d'ailleurs, je pense, n'est jamais préparé. Donc, merci et bonjour à tous. Et merci aussi et surtout aux invités que j'ai le plaisir de recevoir. Alors, je vais les présenter très rapidement tout de suite, mais je le referai plus en détail à mesure qu'ils prendront la parole. D'abord Jean-Vincent Olyndre, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2, mais aussi directeur scientifique de l'IRSEM, qui vient nous parler donc de Raymond Aron et de Clausewitz. Ensuite Martin Mott, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, directeur du cours de stratégie à l'École de guerre, qui mettra en lumière les travaux de l'amiral Castex. Puis on prendra de l'altitude avec le capitaine Béatrice Hainaut de l'Armée de l'air, qui nous parlera de Julio Douai et de la supériorité aérienne. Avant de redescendre avec Joseph Enrotin, même si Joseph aura beaucoup de hauteur dans ses propos, qui est rédacteur en chef du magazine partenaire du podcast, DSI, puisque Joseph est aussi lui aussi très familier avec l'arme aérienne, et il nous parlera de l'œuvre et de l'héritage d'Hervé Couteau-Bégary. Viendra ensuite Elie Tenenbaum, chercheur au Centre des études de sécurité et coordinateur du laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, pour nous parler de l'œuvre et de la grande postérité de David Galoula, grand théoricien de la contre-insurrection. Et enfin, on laissera la dernière intervention et même la conclusion au général de corps d'armée Benoît Durieux, chef du cabinet militaire du Premier ministre, qui nous fait l'honneur d'être là, ancien directeur du Centre des hautes études militaires, qui est aussi l'un des meilleurs spécialistes français de Clausewitz, et qui nous parlera de la lecture de ce dernier par Hannah Arendt. Alors, juste, je vais le dire, et j'espère que tout le monde s'en rend bien compte, mais c'est un très très beau casting qu'on a aujourd'hui autour de la table pour parler de stratégie avec des intervenants d'une qualité vraiment rare que je suis très heureux de réunir et que je remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et je remercie aussi évidemment toute l'équipe du CDEM, donc le directeur Frank Smith, Anaïs Meunier, le sergent Rénal et le lieutenant Barral d'avoir mis en place tout ça. Ok, donc je vais vous expliquer un peu l'idée qui préside à l'émission et son fonctionnement. Donc, puisque c'est l'anniversaire du CDEM, donc le Centre de Documentation de l'École Militaire qui nous accueille ici, on est parti du centre et de ce qui fait son identité, c'est-à-dire les livres qui sont partout autour de nous et derrière moi, et plus particulièrement les livres qui réfléchissent à la guerre et notamment à la stratégie. Alors, il y a quelque chose d'un légèrement paradoxal ou à contre-emploi là-dedans, puisque évidemment, on est ici pour un podcast, donc un média audio qui se passe largement de l'écrit en général, et dont un des grands avantages, c'est précisément qu'il ne nécessite habituellement pas le regard ni la totalité de l'attention, ce qui fait que les podcasts et la radio nous accompagnent à plein de moments différents du quotidien. Mais évidemment, vous vous doutez que ça n'est pas complètement paradoxal et que je crois au contraire qu'il y a une grande complémentarité entre les deux. D'abord parce que l'audio fait plein de choses, mais elle permet une densité d'information nettement moindre que l'écrit. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut transmettre, propager la réflexion avec un podcast, c'est ce qu'on essaye de faire régulièrement avec le Collimateur. Mais les sciences et la recherche ont toujours besoin de l'écrit. Il faut des références, il faut des notes de bas de page, il faut des commentaires, il faut autant de choses qu'on fait difficilement en podcast et qui font l'essence de la recherche. J'en profite pour dire que vous verrez, mais on va introduire bientôt des nouveautés dans les prochaines semaines du podcast, notamment pour travailler des articles en format audio, mais on aboutit quand même toujours très vite au constat qu'on peut simplement pas se passer de l'écrit. Deuxième chose, et j'arrive au cœur de mon propos, c'est que ce qui est écrit peut durer, et notamment ce qui est publié peut durer. Alors j'essaye toujours que les podcasts soient un peu décollés de l'actualité très chaude, ce qui permet de les réécouter un peu longtemps après, mais le fait est que ça a peu en commun avec un livre qui est publié, qui fait réagir, qui peut être relu, retravaillé. Et c'est donc ça que j'ai demandé à nos intervenants, de choisir des livres qui ont une postérité, qui méritent d'être lus, qui méritent d'être remis en lumière, parce qu'ils représentent un moment de la réflexion sur la guerre et la stratégie, et que malgré leur distance, puisque le plus récent d'entre tous, donc celui d'Hervé Couteau-Béguéry, a déjà plus de 20 ans, ils ont une pertinence, d'une certaine manière, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la guerre et la stratégie contemporaine. Alors, je vais maintenant céder la parole à Jean-Vincent Hollin, directeur scientifique donc de l'IRSEM, mais je vais simplement vous expliquer rapidement comment ça va se passer. L'idée, c'est pas tant de faire une succession de prises de parole que de favoriser la discussion, et je sais que les intervenants auront des choses à dire sur les ouvrages des autres, donc ça va être une présentation d'abord de quelques minutes, que j'animerai un peu, et puis ensuite on ouvrira la discussion à tout le monde. Donc le premier à passer, c'est Jean-Vincent Hollin, dont je précise qu'il est aussi l'auteur de « La ruse et la force », paru chez Perrin en 2017, qui est une grande relecture de l'histoire de la réflexion sur la guerre, sur ces deux grands pôles que sont la ruse et la force, qui a récemment eu le prix Maréchal Foch de l'Académie française. Et Jean-Vincent va nous parler donc de l'ouvrage de Raymond Aron, « Penser la guerre, Clausewitz », paru chez Gallimard en 1976. Alors juste après, je me tais, c'est promis, mais simplement pour dire que cet enregistrement est un peu encadré par la référence à Clausewitz, puisque Jean-Vincent nous en parle, et le général Durieux nous parlera de la relecture de Clausewitz par Hannah Arendt. Et c'est pas par hasard. Ça me semble assez nécessaire, puisque Clausewitz et son grand œuvre de la guerre, donc l'essai inachevé à sa mort en 1831, c'est une des très grandes références qui sont omniprésentes dès qu'on parle de guerre et de stratégie. C'est un peu comme Sun Tzu ou Thucydide, on en parle, on les cite beaucoup. Et un peu comme Sun Tzu ou Thucydide, on les cite en général quand on les a pas lus. C'est toujours beaucoup plus pratique. Et c'est le grand truc de la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Qui fait un peu toujours vernis de culture militaire et stratégique. C'est aussi, on dit souvent que telle ou telle idée est très clausewitzienne pour faire joli, mais personnellement je sais jamais vraiment à quoi ça correspond, et du coup je vais demander à ce qu'on m'éclaire en permanence. Donc c'est très bien qu'on ait d'excellents spécialistes de Clausewitz autour de la table pour voir un peu plus clair dans cette œuvre, et pour y voir aussi un peu plus clair à travers le regard aussi d'autres intellectuels comme Raymond Aron. Et je cède donc la parole à Jean-Vincent.
Merci beaucoup Alexandre. La tâche est difficile de démarrer. J'ai choisi un livre qui est un livre de Raymond Aron, et donc j'ai choisi un auteur qui est Raymond Aron, qui publie cet ouvrage en 1976. Il est alors au soir de sa vie, au soir de sa carrière. Il est professeur au Collège de France. Il a traversé le XXe siècle comme philosophe politique avec une lecture politique des affaires humaines, et la guerre étant probablement la plus grande des affaires humaines et la plus politique sans doute d'entre elles. Et puis, il se souvient au soir de sa vie d'un séjour qui a changé sa vie en Allemagne. Ça a été un des premiers philosophes français après la Première Guerre mondiale à être revenu en Allemagne après le conflit qu'on sait. Et en Allemagne, il découvre la montée du nazisme, il découvre la probabilité de la guerre, il découvre les relations internationales, il découvre la politique. Il se lance donc dans l'interprétation des choses politiques. Et en fait, ce livre sur Clausewitz, c'est à la fois un livre rétrospectif sur ce parcours intellectuel, c'est un livre sur Clausewitz qu'il considère comme étant un des grands phares de la pensée à l'image de Thucydide ou à l'image de Machiavel, un auteur à travers lequel il permet en quelque sorte d'interpréter la guerre. Et alors, qu'est-ce qui est important dans ce livre ? C'est le fait qu'il met en relation les deux grandes interprétations de Clausewitz. L'idée d'abord développée par Clausewitz qu'il y a une définition de la guerre qui serait une définition militaire fondée sur le principe d'anéantissement, c'est-à-dire cette idée que la guerre, comme dit Clausewitz, est un duel à grande échelle et dont l'anéantissement constituerait en quelque sorte l'objectif ultime. Et à côté de cette définition, il y en a une deuxième, celle que vous avez citée, la guerre comme continuation de la politique par d'autres moyens, avec l'idée que c'est la politique qui gouverne la guerre, que la guerre n'est pas simplement un affrontement armé sanglant, c'est une décision politique qui est donc du fait décidée par le politique, et que le militaire suit en quelque sorte cette décision politique. Et donc il y a cette tension qu'on trouve chez Clausewitz, tension qui est à l'œuvre dans tout l'ouvrage, qui n'est pas entièrement résolue, puisque l'ouvrage est inachevé, mais le pari de Raymond Aron, comme il le dit dans cet ouvrage, c'est un pari sur la raison, c'est-à-dire sur la deuxième définition de la guerre, avec cette idée qu'en dernière analyse, c'est la définition politique de la guerre qui l'emporte sur une définition où le principe d'anéantissement serait en quelque sorte premier. Et donc, évidemment... Il s'oppose de ce point de vue-là à d'autres grands interprètes de Clausewitz, notamment Lidlhardt, qui fait de Clausewitz un accusé, qui fait de Clausewitz l'annonciateur des grandes guerres d'anéantissement. Et Aron, contre Lidlhardt, défend l'idée que Clausewitz, bien au contraire, défend la raison, la rationalité politique dans le contexte de la guerre, et donc ne peut pas être le grand prophète des guerres de masse. Et évidemment, le message de Raymond Aron en 1976 a un écho particulier puisqu'on est dans le contexte de la guerre froide dont Raymond Aron a été un des interprètes principaux. Et contexte de guerre froide,
on peut même dire que ça a été un peu plus qu'un interprète puisque au centre du parcours de Raymond Aron, il y a aussi une interaction avec le politique. C'est un des premiers... On n'appelait pas encore ça les conseillers du soir à l'époque, mais il y a quand même un vrai truc entre intellectuel et acteur aussi. Quoi.
Alors, c'est sûr, mais justement, c'était le point sur lequel je voulais poursuivre, puisque le contexte est important, et ce qui fait l'intérêt du deuxième volume, puisqu'il y a deux volumes dans ce geste
extrêmement radiophonique, le professeur Jean-Vincent Hollande vient de se saisir des deux tomes.
Voilà, et donc, comme je le fais avec mes étudiants, je montre les livres. Et pour dire
qu'il y a écraser la contradiction entre les deux tomes.
Qu'il y a un premier tome qui porte sur l'itinéraire de Clausewitz, c'est un deuxième tome qui porte sur sa réception et surtout sa signification aujourd'hui. Or, le grand problème, c'est quoi ? À l'époque, c'est le nucléaire. Cette question, pas seulement, mais c'est un des problèmes importants. Et évidemment, le nucléaire confère une responsabilité particulière aux politiques, considérant l'anéantissement possible que pourrait provoquer cette arme nucléaire. Et donc Clausewitz, de ce point de vue-là, est interprété par Raymond Aron comme celui qui a fait ce pari sur la raison, c'est l'expression qu'emploie Aron. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, Aron est en porte-à-faux avec un certain nombre de figures politiques, notamment le général de Gaulle, dont il a été proche, puisque Raymond Aron a été un des fondateurs avec de Gaulle du RPF, du parti du général de Gaulle fondé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Aron, contrairement à De Gaulle, a un point de vue beaucoup plus atlantiste et considère donc qu'il faut être plutôt dans l'optique, disons, américaine de l'atlantisme et donc pas tout à fait dans la vision qui était celle de l'indépendance nucléaire proposée par le général De Gaulle. Et donc Aron se définit comme spectateur engagé. Il n'a jamais été conseiller du prince. Il n'a jamais été conseiller du prince. Il a été pendant un an directeur de cabinet d'André Malraux. Ça a été une expérience pour lui effroyable au lendemain de la guerre qui ne lui a pas beaucoup plu. Et il a toujours tenu à garder sa liberté et à être en quelque sorte ce poil à gratter qui était certes proche d'un certain nombre de figures politiques françaises ou américaines, notamment Kissinger, dont il a été très proche par le biais de Stanley Hoffman. Mais fondamentalement, Aron a toujours été à distance du politique, consulté dans certains cas, mais pas nécessairement dans une figure de conseiller ou d'éminence grise telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Et il a toujours tenu à garder sa liberté et son indépendance de chercheur, au risque d'ailleurs parfois d'être marginalisé.
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'un des intervenants qui a envie de réagir ? Peut-être le général Durieux, qui, j'espère, a une expérience moins traumatisante du cabinet que l'a eu Raymond Aron. Rapprochez le micro. Ouais.
Non, merci beaucoup, Jean-Vincent Hollande, pour ces éclairages. J'ai envie de dire, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a d'abord, je pense que quand Clausewitz dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, d'ailleurs, il le dit de différentes façons dans son ouvrage. Et au fond, il dit pas seulement, ou la seule lecture qu'on peut en faire n'est pas seulement de dire que c'est la politique voie de la raison, comme le pensait sans doute Raymond Aron, qui oriente la guerre. Ça, c'est une première lecture. Je pense qu'il y a une deuxième lecture possible qui est de dire que l'affrontement entre les adversaires est de nature politique indépendamment des ordres qui peuvent être donnés ou pas. Et puis il y a une troisième lecture possible qui est de dire que la guerre elle-même est un phénomène qui, en réalité, que les hommes ont l'impression de maîtriser, mais qui, en fait, n'est simplement que le reflet d'un environnement, d'une superstructure, diraient sans doute les marxistes, sociale, économique, ethnique, etc. Et donc là, on a bien trois sens un peu différents de cette fameuse formule de Raymond Aron. Puis la deuxième réflexion, c'est que s'agissant de l'arme nucléaire, c'est vrai qu'à l'époque de Raymond Aron, il y a un débat majeur et au fond, certains disent l'arme nucléaire montre que la guerre ne peut pas être la continuation de la politique par d'autres moyens, puisque détruire absolument, aboutir à la fin du monde ou détruire intégralement le pays est la négation de la politique. Et en réalité, le débat est d'ailleurs plus, à mon avis, apparent que réel, parce que, en fait, les uns disent, comme l'arme nucléaire, comme la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens, alors en réalité l'arme nucléaire ne sera pas employée, d'une certaine façon. Et puis les autres disent, l'arme nucléaire existe, alors si elle est employée, la guerre ne peut pas être la continuation de la politique par d'autres moyens. En fait, ils donnent tous raison à Clausewitz, à mon avis. Voilà quelques réflexions.
C'est très bien, parce que c'est très représentatif de... C'est-à-dire que Clausewitz, c'est comme un texte sacré. C'est-à-dire tout le monde donne toujours raison à Clausewitz. Absolument. D'une manière ou d'une autre.
Pas tous.
Ce qui est un destin enviable pour un auteur. C'est que tout le monde vous donne raison de manière différente.
Vous avez des anti-clausewitziens notoires.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir soit sur Raymond Aron, soit sur Clausewitz? Élie Tenenbaum.
Ouais, non, je veux pas parler de Clausewitz et sa réception en France sous le contrôle du général, mais effectivement, je pense qu'il y a une histoire particulière aussi de la manière dont les Français ont pu lire Clausewitz depuis qu'il avait été traduit au XIXe siècle pour la première fois. Et Aron, finalement, introduit son texte à un moment où Clausewitz n'est pas forcément la référence aussi dominante qu'elle peut l'être aujourd'hui et qu'elle l'a été, y compris à travers l'influence américaine et la lecture américaine de Clausewitz qui lui a redonné aussi la place qu'elle peut avoir aujourd'hui dans le panthéon stratégique. Et la force de Raymond Aron, à mon avis, dans sa lecture de Clausewitz, c'est qu'il lui redonne son universalité, justement, son intemporalité, qui avait pu être beaucoup critiqué à cette époque-là, justement, en disant que Clausewitz est un auteur finalement assez daté, qui ne s'adapte pas bien au contexte de l'âge nucléaire, mais aussi d'autres problématiques de guerre, dont on parlera après avec Galula, qui sont les guerres irrégulières, donc que certains pouvaient considérer comme des guerres non clausewitziennes, ou ne s'adaptant pas à la logique clausewitzienne. En relisant le texte, en lui redonnant son universalité et son essence principale, qui est de nature philosophique et politique plus que finalement d'une doctrine stratégique, Aron permet de sauver finalement Clausewitz pour la France et pour la pensée stratégique française. Je pense que c'est un point à souligner.
Remercions donc Raymond Aron de tout ça. Quelqu'un d'autre? Non, s'il n'y a personne d'autre, on va peut-être passer à la suite. Donc, à Martin Mott. Donc, le deuxième ouvrage au programme, c'est donc les théories stratégiques de l'amiral Castex, qui sont donc présentées par Martin Mott, directeur à l'école pratique des hautes études, directeur du cours de stratégie à l'école de guerre, qui est notamment l'auteur d'un excellent ouvrage paru en 2018, La mesure de la force, traité de stratégie de l'école de guerre. Alors, vous venez nous présenter les théories stratégiques de l'amiral Castex, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez choisi un sacré morceau, parce que le public ne peut pas le voir là, puisque le CDM a gentiment sorti un exemplaire, mais en fait, c'est un ouvrage en 7 volumes.
3000 pages.
Voilà, 7 tomes, 7 tonnes presque aussi. Et donc, 7 volumes composés dans les années 30, et c'est une réflexion donc de très grande ampleur sur la guerre, sur les différentes armes, et sur l'importance aussi stratégique de la mer.
Non, en fait, je l'ai choisi uniquement parce qu'il fait 7 tomes et que je voulais embêter Jean-Vincent, qui était content d'avoir 2 tomes. Voilà.
Voilà. Alors non, je l'ai choisi aussi parce qu'il fallait qu'on parle un peu de la mer ce soir, bien sûr. Curieusement, je ne pense pas que le plus grand penseur de la stratégie navale soit de la stratégie maritime soit Castex. Je pense que c'est Corbett et Castex l'a pas mal dévalisé. Mais Castex a une supériorité sur Corbett, c'est que
c'est quasiment un argument qu'on retrouverait beaucoup chez des Anglais. L'idée que l'amiral français a tout volé au posseur anglais.
Oui, mais avec quand même un avantage très fort, c'est que il a vécu très vieux. Il est né en 1878, il est mort en 1968, comme Jomini d'ailleurs au siècle précédent.
Et c'est une un vie avantage très pour terminer les arguments.
Pas bien. Du tout. Non, c'est très important parce qu'une vie aussi longue, ça vous fait passer dans des contextes sociopolitiques et technologiques extrêmement différents. Et l'un des intérêts de Castex, c'est alors là pour le coup une vraie supériorité sur Corbett qui n'a pas connu ces changements d'époque aussi prononcés, parce qu'il est mort juste après la Première Guerre mondiale, c'est que donc on passe de l'époque d'une marine composée dont les deux pôles sont le torpilleur et le cuirassé à une marine dont les pôles sont le porte-avions nucléaire et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins que Castex a connu. Donc ça, c'est vraiment un grand intérêt. Et un des intérêts du livre, c'est que la pensée de Castex s'articule autour de cette question. Y a-t-il une permanence des principes de la stratégie ? Ou est-ce que le facteur technologique, qui est tellement important dans les milieux complexes comme la mer, l'air, l'espace, etc., écrase finalement les principes et surdétermine la stratégie ? Alors lui, il s'était engagé aux côtés des historiens avant la guerre de 14, ceux qui pensaient qu'en fait il y avait une permanence historique des principes et que par conséquent au plus la technologie, les mutations technologiques affectaient l'échelle tactique uniquement, mais pas la conduite supérieure des opérations. Au contraire, les partisans à l'époque du sous-marin disaient que le sous-marin allait tout transformer parce que il peut échapper en plongée au gros bateau, donc il rééquilibre la hiérarchie des puissances navales, les faibles vont pouvoir échapper à l'emprise des gros en passant sous l'eau et attaquer le commerce, et finalement la guerre au commerce qui était le lot de consolation de celui qui n'avait pas de gros bateau au XVIIe et XVIIIe siècle avec les corsaires, devenait une manière de faire la décision en coulant intégralement la flotte de commerce adverse. Bon, et donc ça allait supprimer les flottes de surface, allait supprimer la bataille décisive. Alors finalement, supprimer ce fantasme clausewitzien mal compris qui était la bataille décisive sur mer. Bon. Donc Castex s'est opposé à ça. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale, il a lutté contre les sous-marins, il s'est rendu compte que le sous-marin avait été totalement sous-évalué par l'école historique. Et après la guerre, il procède à une réévaluation où, certes, il maintient le primat de la guerre d'escadre parce qu'à la fin, les sous-marins ont perdu, mais en étant beaucoup plus attentif aux facteurs technologiques. Et il a cette formule qui, pour moi, a une valeur permanente, parce que c'est la question de la pédagogie, de la stratégie. Comment est-ce qu'on enseigne la stratégie? Comment on se prépare à la guerre? Quelle est la valeur de l'histoire pour tout ça? Et au fond, il dit l'histoire ne donne pas de recette de victoire clé en main, ce qu'il avait tendance à penser avant 14, mais elle apprend à prendre de la distance, prendre du recul, car le chef de guerre, il est confronté à une situation stressante. Or, quand on connaît l'histoire, on voit qu'il y a sinon des permanences, au moins des récurrences, des analogies, des tendances lourdes. Donc ça permet de prendre du recul et de ne pas paniquer. Et ça, je crois que c'est la bonne pédagogie historique. C'est donc le premier point que je retiens dans l'apport de Castex.
Alors dites-nous peut-être, puisque c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'amiral Castex.
Oui.
Donc c'est l'interaction, disons, entre l'action et la réflexion,
ce
qui n'a pas toujours été donné à tous les officiers au cours du XXe siècle.
Non, alors il a une carrière qu'on aurait pu comparer à celle de Clausewitz avant la biographie récente de Colson, parce que ce qu'on disait toujours de Clausewitz, c'était un bon penseur, mais que c'était pas un bon homme d'action. Et Colson a montré que c'était pas vrai. Et Castex, l'action, il lui a manqué peut-être plus de docilité, parce qu'il s'est opposé à Darlan en 40, et bon, il a sauté. Et peut-être qu'il aurait pu montrer qu'il avait une carrure d'homme d'action. Ça, nous ne le saurons jamais. Alors le deuxième point que je trouve très intéressant, c'est que avant 14, les stratèges navals avaient tendance à concevoir la guerre navale comme une bulle, hein, une catégorie autosuffisante. Et la question de son articulation avec la stratégie générale, mais le terme de stratégie générale et de Castex, n'existait pas, ne se posait pas. Hein. Alors très typiquement, il voulait détruire les flottes adverses avant de s'occuper de la protection du commerce ou des transports de troupes. Et évidemment, les terriens leur disaient, mais attendez, nous, si vous ne nous assurez pas les transports de troupes dès les tout premiers jours de la guerre, on va perdre la bataille aux frontières, ou la bataille de la Marne, en l'occurrence, ensuite, après. Bon. Et après, il y a eu la nécessité de protéger les convois contre les U-boats, alors même que la grande bataille navale n'avait pas encore eu lieu, et que beaucoup de marins ont attendu jusqu'en 16-17, la grande bataille navale qui n'est jamais venue. Hein. Et Castex, à ce moment-là, a compris que parce que les hommes ne vivent pas en mer, qu'ils vivent sur terre, la stratégie navale est subordonnée et il a à ce moment-là conçu cet édifice conceptuel qu'il appelle la stratégie générale, mais qui va devenir la stratégie intégrale avec les penseurs de l'après 45, où finalement cette stratégie générale consiste au niveau politique à articuler des stratégies spécifiques, navales, terriennes, économiques, diplomatiques, morale, car il s'est aussi beaucoup intéressé à l'impact médiatique et moral du torpillage du Lusitania, par exemple. Finalement, le choc en retour pour les Allemands a été catastrophique. Hein. Donc, il a fait entrer cette question de la stratégie morale, de la légitimité.
Le torpillage du Lusitania.
Le torpillage du Lusitania en mai 1915, c'est un paquebot qui porte des civils, alors qui est bourré d'armes dans ses cales. Donc, les Anglais, de ce point de vue-là, s'étaient mis évidemment dans un mauvais cas, mais enfin, il y avait des civils et il y a eu donc 1200 morts civils suite à ce torpillage. Donc, c'était très, très préjudiciable, évidemment, à la cause allemande. Et voilà, donc, cette notion de stratégie générale et le concept de servitude qui développe, c'est-à-dire le fait que chaque stratégie est en servitude par rapport aux autres et doit accepter de se mettre autour de la table pour mutualiser l'effort. Ça, c'est aussi quelque chose qui, dans le monde contemporain, est devenu une vérité d'évidence. Et puis, dernier point, c'est sa réflexion sur le rapport entre la technologie et la géographie et la conduite des opérations, le rapport entre la terre et la mer, avec des choses qui annoncent les réflexions actuelle sur l'anti-accès le déni de zone, etc., qui sont tout à fait intéressantes. Et une réflexion sur la radio aussi. Il a combattu le fantasme selon lequel la radio allait lever le brouillard de la guerre. Et nous savons à quel point ce fantasme est récurrent et qu'il est revenu avec le cyber, etc.
Donc ce serait l'idée que la radio, par la transmission d'informations, permettrait
de comprendre intégralement ce qui se passe sur le champ de bataille, ce que veut l'ennemi, etc. Et lui a montré dès les années 30 qu'en fait, avec la radio, le chef central, si vous voulez, vit en temps réel les combats de ses subordonnés. Et donc, le privilège du chef jusque-là, c'était de ne pas connaître le stress du combat et de pouvoir réfléchir à tête reposée. Et là, il le vit. Et nous avons des exemples extraordinaires. Pour moi, le plus extraordinaire, c'est Nagumo à la bataille de Midway. À qui on signale que des avions qui ont décollé de Midway se dirigent vers sa flotte. Bon, ça, il s'y attendait, c'est pas une surprise. 20 minutes après, on lui annonce qu'il y a des porte-avions américains sur zone, alors qu'il était persuadé qu'ils étaient dans le Pacifique Sud, à des milliers de kilomètres de là, et que ça flanquait tout son plan par terre. Et il panique tellement à cette nouvelle qu'il oublie ce qu'on lui a dit 20 minutes avant, c'est-à-dire qu'il y a par ailleurs une vague d'avions qui approche. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que je crois que c'est des problèmes qu'on vit vraiment de plus en plus. Voilà, apports, à mon sens, de Castex.
Scène qui est par ailleurs représentée dans un des films les plus mauvais de ces derniers mois, qui est le film Midway,
que je
conseille à tout le monde de ne pas aller voir. vous me remercierez plus tard.
Il y a celui des années 70, était décent. Décent.
On ne peut pas en dire autant. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir et parler de Castex, peut-être ? Joseph Rotin.
Une petite... En fait, sous forme de question... Donc effectivement, Castex articule la stratégie générale dans une vision qui est finalement effectivement très similaire à celle de Poirier. Néanmoins, est-ce que cela fait partie des choses qu'il a repiquées chez Corbett ? Parce que chez Corbett, il y a une pensée en fait qui est d'abord une pensée très clairement clausewitzienne, il s'en réclame. Et où donc effectivement l'action militaire est le fruit de la politique, est parfois modérée par le politique, la déflexion du militaire par le politique. Et il dit voilà, une des conséquences organiques de cela, c'est qu'il nous faudrait, nous, la Grande-Bretagne, un état-major interarmé, liant très clairement la British Army et la Royal Navy, et donc où effectivement ces deux composantes-là doivent se parler, effectivement, on rejoint les logiques de servitude, et si elles ne le font pas, pour les opérations amphibies notamment, où ces deux composantes-là fonctionnent main dans la main, ça va louper, les uns et les autres n'ont pas les mêmes intérêts, ainsi de suite. Est-ce que ça fait partie donc des repiquages, des...
Oui, en grande partie, oui. En grande partie, oui. Par contre, c'est d'avoir creusé le concept de servitude qui découle de ça, d'avoir essayé de montrer que les servitudes, d'ailleurs, ne sont pas, qu'il y a différents types de servitudes. Par exemple, entre la politique de recherche industrielle et de défense et la marine, il n'y a pas de lien de servitude réciproque. C'est la marine qui demande du matériel, donc elle n'est pas en servitude. C'est l'autre qui est en servitude. Par contre, vis-à-vis des forces terrestres, c'est la marine qui est plutôt en servitude, sauf quand les forces terrestres ont besoin de faire un débarquement, donc c'est elles qui viennent s'adresser à la marine. Donc il fait toute une géographie des dépendances réciproques, et le but étant d'apprendre aux marins à sortir de leur bulle, parce que effectivement, jusqu'à l'invention de la radio, d'une certaine manière, une flotte ne pouvait pas communiquer avec les forces à terre ou les forces en l'air, et donc elle a été forcément obligée de raisonner dans un monde à part. Enfin,
Gittenbaum.
Je pense qu'il y a, un autre élément qui a été souligné par Martin Mott, mais qui mérite, sur lequel il mérite qu'on insiste, c'est que le Castex, c'est une avec Couteau Bégari, l'un des deux auteurs de la stratégie navale qu'on a sur cette table aujourd'hui, et les auteurs de la pensée navale ont eu cela de particulier, qu'ils ont été parmi les premiers, à sortir la pensée de la guerre du cadre strictement militaire. Et c'est ce que vous évoquiez, Martin Mott, avec la notion de stratégie générale qui sera effectivement reprise par Beaufre en tant que telle, et ensuite en stratégie intégrale par Poirier. Et du fait même de ce que la stratégie navale était liée intrinsèquement au commerce international, à la guerre de course, au monde de l'économie, et qui lui a donné finalement une capacité de réflexion sur l'ensemble des outils de puissance au-delà des forces armées en tant que telles, mais pour inclure l'économie, les actions d'influence, la politique, etc. Tout ce qu'aujourd'hui on redécouvre d'une certaine manière avec la grande stratégie, la guerre hybride, les actions civilo-militaires et j'en passe, les zones grises, tout ça est finalement inclus dans les penseurs de la stratégie navale, dont Corbett, Castex, Mahan et d'autres. Et ça, c'est quand même un point à souligner.
Juste simplement souligner que c'est aussi intéressant toutes ces histoires de transposition, parce que quand on parle de stratégie navale, c'est pas la même chose d'écrire dans stratégie navale pour un auteur anglais comme Julian Corbett, Sir Julian Corbett, et d'écrire pour un français comme Castex. Il y a un exceptionnalisme naval anglais qui remonte très loin, qui remonte au moins au XVIe siècle, et c'est pas exactement la même chose de relativiser l'importance de la marine pour un penseur français et de le faire pour un penseur anglais. S'il n'y a pas d'autres... Si, Joseph ?
Alors, juste peut-être un petit mot pour souligner qu'il est remarquable que, aussi bien pour Castex que pour un autre navaliste, Brodie en l'occurrence, très rapidement, en 1946, ces gens-là envisagent la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme nucléaire non pas comme une grosse bombe, comme une grosse artillerie, mais au contraire, on rentrait dans une dimension de la stratégie qui était différente.
Alors il y a une explication à ça toute simple, c'est qu'en fait, Castex a réfléchi sur la dissuasion conventionnelle à la suite de la Première Guerre mondiale, parce qu'il a dit finalement pourquoi est-ce que la flotte allemande n'est pas sortie pour balayer les forces anti-sous-marines alliées, parce qu'elle avait peur des cuirassiers anglais. Donc sans quitter leur port, les cuirassiers anglais inhibaient la flotte allemande.
Très bien, alors maintenant on va prendre un peu de hauteur, de manière très littérale. Même si évidemment, comme Martin Mott vient de l'expliquer, Castex traite très largement de l'aviation et de sa très grande importance, c'est donc le capitaine Béatrice Hainaut de l'armée de l'air qui vient nous parler d'un ouvrage d'une importance historique vraiment énorme, qui est La maîtrise des airs de Giulio Douai. Et alors, ce qui est vraiment fascinant avec Douai, c'est que, un peu comme Castex, mais c'est un militaire qui théorise son arme et qui, lui en plus, a compris extrêmement tôt l'importance de l'avion pour faire la guerre, puisqu'il a déjà compris, il a déjà travaillé là-dessus, il a déjà publié avant même la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, souvent, on pense la Première Guerre mondiale comme cette espèce d'immense révélateur de l'importance de l'aviation, même si, évidemment, ça va beaucoup se perfectionner après. Douai avait déjà tout compris avant. Non.
Merci.
Peut-être
Alexandre.
Pas, vous allez nous dire.
Oui, alors, effectivement, juste, moi, j'ai un seul livre, mais en fait, c'est comme si j'en avais deux, parce qu'il y a deux éditions. Il y a l'édition de 1921 et l'édition de 1926 qui sont traduites donc, depuis 2007 de manière intégrale dans ce livre, donc là, qui a été traduit de l'italien, hein, puisque Giulio Douai est un général italien de l'armée de terre, initialement. Et donc, on voit l'évolution de sa pensée entre l'édition de 1921 et l'édition de 1926. Et comme l'a précisé Alexandre, effectivement, ça reprend un peu les pensées, les écrits qu'il a fait une dizaine d'années même auparavant. Alors, pour resituer le contexte historique, il écrit et il pense déjà lorsque l'avion est réellement ses balbutiements, ce qu'on appelle le plus lourd que l'air, donc on est vraiment au début de l'avion. Il y a eu des premières utilisations par l'Italie des déjà en 1911 en Libye de l'utilisation de bombardements par les avions, mais on est vraiment au balbutiement. Il va développer une réelle vision stratégique en pensant la puissance aérienne en tant que telle. Donc aussi pour un peu recontextualiser, donc le contexte technique, il faut quand même s'imaginer qu'il pense la stratégie aérienne avec des avions qui sont faits de bois et de toile, qui sont très fragiles, qui sont peu fiables. On n'est pas à l'ère de l'avion de cinquième génération.
Alors une question très bête tout de suite, mais est-ce qu'il a volé ? Est-ce qu'il volait à cette époque-là ? Est-ce qu'il était aviateur ?
Non.
Ah, d'accord.
Il n'a pas volé, et même il considérait que le métier de pilote était plutôt pas valorisant. Donc pour lui, c'était juste presque une besogne à accomplir. Donc ça ne l'a pas empêché de penser et bien.
Et confortablement.
Et tout à fait. Julio Douay, c'est quand même un auteur qui est très controversé dès le départ dans ses écrits. Donc on a des positions qui sont très tranchées par rapport à ses idées. C'est pour ça que j'insiste sur ce contexte historique et un peu contexte technique, puisque, comme vous le rappeliez, il a quand même pensé avec peu d'expérience concrète lui-même, mais aussi peu d'expérience aérienne, puisqu'on est quand même soit avant... avant la Première Guerre ou juste après. Donc c'est important de le prendre en compte.
C'est certain que dans ce contexte-là, si on veut penser longtemps, il vaut mieux pas trop monter dans des avions, en tout cas dans ces années-là.
Exactement. Ça dépend avec quel pilote, mais effectivement, l'espérance de vie est plus longue aujourd'hui. Pour les idées principales de cet ouvrage qui peuvent éventuellement rencontrer une postérité ou on pourrait encore débattre aujourd'hui, bien sûr, c'est d'abord et avant tout la notion, le concept de la maîtrise de l'air qui donne le titre à l'ouvrage. Et aussi, donc, je développerai juste après en deux mots chaque thème. Il insiste sur la primauté du bombardement stratégique. Bon, ça va avec, bien sûr, la maîtrise de l'air, c'est-à-dire la primauté de l'offensive sur le défensif. Alors peut-être les Clausewitziens ont quelque chose à dire là-dessus, je ne sais pas.
Je ne sais pas qui on désigne par là. Non,
j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de Clausewitziens invités, donc voilà. Et il défend aussi ce qui est un peu révolutionnaire à l'époque, et aujourd'hui ça nous paraît complètement dépassé, c'est l'idée d'une armée de l'air indépendante, enfin une armée de l'air à part entière. Donc aujourd'hui, on ne discute plus l'existence des armées de l'air, dans presque tous les pays on a une armée de l'air, mais il faut comprendre qu'à son époque, c'est une idée qui est très controversée, surtout que l'avion remporte moins les faveurs, par exemple, que le dirigeable, et l'armée de l'air indépendante, ça gratte un peu à l'armée de terre ou à la marine. Donc il est parfois très tranché dans ses positions, il faut un peu peser le pour et le contre de sa réflexion, mais il défend vraiment hardiment cette idée d'armée de l'air indépendante et il l'argumente. Et enfin, il fait un petit développement, ça prend pas énormément de place dans le livre, mais pour la postérité et pour peut-être le débat contemporain, ça peut être très intéressant. Il fait un développement sur l'importance de la masse. Alors pareil, ça se comprend à l'époque où il écrit, de développer sur la masse, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce débat sur la masse qualité peut aussi...
Ça veut dire quoi, la masse ?
C'est le nombre d'avions, très prosaïque, le fait de disposer de beaucoup d'avions, de pas les disperser non plus dans des missions qui seraient très différentes, etc. Et donc peut-être que...
Et donc le concept qui a une immense postérité, que tout le monde travaille, retravaille, discute, c'est évidemment le concept de supériorité aérienne.
Voilà, supériorité, ou peut-être que la maîtrise de l'air, ce serait plus la suprématie. Enfin, c'est un peu, il y a différentes définitions. La supériorité, on considérait que ce serait temporaire. La suprématie, ce serait vraiment quelque chose de pérenne.
Et donc, c'est quoi
pérenne.
L'idée, c'est que celui qui maîtrise les airs maîtrise le champ de bataille, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est en fait pouvoir voler et empêcher l'ennemi de voler. Et donc, si on l'empêche de voler, on l'empêche de pouvoir frapper son propre territoire ou sa mère. Et donc, en gros, pour Doué, c'est une finalité. Conquérir les airs, c'est gagner, en fait. Puisqu'à partir du moment où votre ennemi ne peut plus voler, il ne peut pas vous bombarder, vous pouvez le bombarder et le détruire grâce au bombardement stratégique qui doit être donc offensif et effectué en masse. Et vous gagnez la guerre, tout simplement.
Ouais, donc c'est l'idée qu'il n'y a rien qui arrête un bombardier, donc celui qui, enfin, qui arrête
un
avion.
Voilà, surtout qu'à l'époque...
Mais depuis, il y a des choses qui arrêtent des avions.
Voilà, donc c'est pour ça que même très tôt, il y a eu... bon, il y a peu de défense aérienne, il y en a quand même pendant la Première Guerre mondiale, mais très vite, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de thèses douaisiennes qui ont été invalidées, puisque, effectivement, il y a la naissance de beaucoup de défenses anti-aériennes.
Donc les défenses anti-aériennes, c'est aussi bien la chasse que éventuellement la
défense aérienne et défense anti-aérienne au sol, etc. Et aujourd'hui, c'est encore, enfin de plus en plus, un espace donc l'air qui est contesté. On peut dire aussi que il y a beaucoup d'exportation de nouveaux systèmes, une dissémination même des puissances moyennes qui se dotent de ce type de moyens qui peuvent remettre en cause la supériorité aérienne et donc la capacité d'entrer en premier sur un théâtre ou en tout cas de faire la guerre, de gagner la guerre.
Mais alors c'est très intéressant parce que enfin, il y a la question donc de la maîtrise des airs, mais ça pose aussi une autre question contemporaine qui est aussi votre spécialité, je crois, puisque vous avez soutenu une thèse sur la question de l'espace.
Oui.
Donc ça pose la question de comment est-ce qu'on s'empare d'un nouveau milieu, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on l'utilise de manière stratégique. Alors, on va le dire en deux mots, c'est Space Force, quoi. Quelle est la question, enfin c'est la question de comment s'emparer, de comment maîtriser un nouvel espace qui peut avoir une utilité stratégique.
Oui, tout à fait, surtout que les États-Unis, enfin les Américains parlent déjà, enfin parlent depuis quelques temps déjà de supériorité spatiale. Donc on a une transposition un petit peu dans chaque milieu qui devient un milieu de combat, puisque là en fait la pensée de Douai, c'est aussi de dire il faut une armée de l'air indépendante parce que les airs deviennent un espace de lutte à part entière. Et c'est ce qu'on dit aussi aujourd'hui de l'espace, c'est que c'est pas juste un moyen, ça devient, c'est pas juste un outil pour d'autres forces armées, c'est un espace de combat à part entière. On fera la guerre dans l'espace comme on fait la guerre dans les airs, sur terre ou sur mer.
Est-ce que quelqu'un veut peut-être réagir sur lui? Alors, oui, je sais qu'il y a d'excellents connaisseurs des théories de la supériorité aérienne aussi autour de la table. Martin Mott ?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, les penseurs de l'air ont transposé à l'air la pensée de leur réflexion, la réflexion existante sur la marine, parce que c'est des milieux fluides, donc il y a quand même des analogies extrêmement fortes. Et là, cette idée qui domine les airs, qui est des airs et maîtres du monde, c'est une ressucée de la phrase de Walter Raleigh au XVIe siècle, qui est maître des mers et maître du monde. Donc ça a servi pour l'air avec Douette. Collins pour l'espace dit la même chose, on le dit pour le cimer, et c'est quand même des formules qui sont extraordinairement propagandistes et fausses, parce que suffit
ça
de
fait beaucoup de maîtres du monde à la fin.
Oui, ça fait beaucoup de maîtres du monde. Il faut quand même rappeler qu'il y a des cas comme dans la guerre du Vietnam où vous pouvez être maître de l'air en grande partie et de la mer et puis perdre la guerre. Hein, donc la guerre, c'est multifactoriel, c'est éminemment complexe, et là il y a une tentation qui est évidemment liée à des intérêts sociologiques. Chaque arme qui apparaît veut expliquer qu'elle doit avoir tous les crédits, etc. Mais c'est quand même un risque de tomber dans le simplisme. Voilà.
Oui, en fait, pour revenir sur la question du défensif et de l'offensif, son articulation clausewitzienne, etc. Je dirais que c'est pas nécessairement...
Pourtant, vous n'étiez pas le plus clausewitzien de la table, mais c'est vous qui ramenez tout le temps à Clausewitz. C'est incroyable.
Moi, je suis très clausewitzien.
Clausewitzien, puisqu'il est bégarien.
Je sais. Il y en a deux qui ont choisi des bouquins sur Clausewitz, et c'est...
Ah, mais Hervé Couteau-Bégari est très, très clausewitzien. Ah oui, tout à fait. Et en l'occurrence, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de stratégie navale, quand on parle de stratégie aérienne, on parle de stratégie particulière. Alors j'y reviendrai justement parce que c'est l'objet d'un des trois livres du traité de stratégie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la défensive, d'une part, elle continue de jouer un rôle. L'escadre qui a le plus de prestige en France aujourd'hui, ce n'est pas une escadre de bombardement, c'est une escadre de chasse. Ce sont les Cigognes qui sont les spécialistes de la défense aérienne. Donc de la protection aérienne du territoire, si vous voulez. À côté de cela, la défense, elle joue également pour les bases aériennes. Vous ne pouvez pas avoir de force aérienne si vos avions ne décollent pas. Et un major américain en 95, si je ne dis pas de bêtises, avait fait un décompte. Il dit voilà, de 1945 à 1995, il estimait qu'il y avait un nombre X d'attaques qu'il avait recensées pour son mémoire. Et il a dit voilà, ces attaques ont débouché sur la perte de plus de 2000 appareils, rien qu'en étant attaqué au sol. Et donc, parce que la base aérienne n'a pas été correctement défendue, quelque part, les forces aériennes n'ont pas été capables de mettre en œuvre leurs appareils de manière offensive. Donc, cette dialectique clausewitzienne de l'offensive qui est permise parce qu'on a éreinté, si vous voulez, l'adversaire, on l'a fatigué, et de ce fait-là, la défensive est donc supérieure, parce que c'est elle qui va préparer la contre-offensive, on la retrouve aussi dans l'aérien. Et en dépit du fait que l'aérien procède aussi de ses propres rationalités, de rationalités de stratégie particulière.
Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ?
Oui, moi je pourrais aussi compléter, alors je ne sais pas si je suis clausewitzien, mais en tout cas, quand on...
On vous en soupçonne fortement.
Non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, honnêtement, d'être clausewitzien.
Moi non plus, du coup.
Quand on regarde, effectivement, chez Clausewitz, comme le rappelait Jean-Joseph en Rotin, la supériorité de la... ce qu'il décrit, la supériorité de la défensive sur l'offensive, qu'est-ce qu'il veut dire par là et pourquoi, au fond ? Au fond, c'est pas lié, c'est pas une notion tactique, je pense. Ça dépasse bien largement cette notion tactique. C'est beaucoup plus fondamental que ça. Et il dit, en réalité, la défensive, c'est celui qui est là, qui peut attendre et qui fatigue en infligeant des violences, en frappant l'adversaire. En réalité, quand on utilise le bombardement stratégique, on attend, on décide le bombardement, on fatigue l'adversaire. Donc d'une certaine façon, je pourrais soutenir que le bombardement stratégique est une forme très très particulière, et je manierais bien évidemment le paradoxe, mais de, en réalité, défensif dans sa philosophie. Parce que ce n'est pas une attaque. Pourquoi ? En ce sens que ça ne permet pas, seul comme ça, d'aller ensuite avancer, d'aller imposer sa présence sur le lieu qu'on cherche à fatiguer. Et donc, là, y a aussi...
Donc c'est que paradoxalement, en attaquant, on ne fait que défendre, parce qu'on attaque pour passer l'envie à l'ennemi d'attaquer. C'est hyper clair. Voilà. J'ai fait un résumé vraiment limpide. Est-ce que Béatrice et nous...
Oui, juste, moi, Doué, je le comprends quand même comme vraiment considérer le bombardement stratégique comme, comme son nom l'indique, stratégique, c'est-à-dire décisif. Donc, que ça ait vraiment l'objectif de remporter la victoire et de clore le débat. Donc,
justement, alors moi, ça m'intéressait de vous poser une question parce que je n'ai pas lu Doué suffisamment et en tout cas, il y a longtemps. Quand il dit le bombardement stratégique va être décisif, pourquoi ? Autrement dit, est-ce qu'il rentre dans des considérations qui ont été par la suite celles de Deptula ou d'autres sur la paralysie, sur la frappe punitive, sur la dissuasion, la coercition? Enfin, est-ce qu'il rentre dans ce type de schéma où il se contente de dire évidemment on va mettre l'adversaire à genoux,
oui,
en le frappant?
C'est déjà détruire tout ce qui est moyen aérien pour pouvoir bombarder à loisir. Et c'est aussi bombarder tout type d'infrastructure et ne pas hésiter à viser la population civile, ce qui a fait beaucoup parler. Et ce pourquoi on a beaucoup aussi critiqué Doué, c'est viser le peuple parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il développe sur l'impact psychologique de ces bombardements. Et que le peuple, en étant démoralisé, va participer à faire gagner l'attaquant.
Enfin, oui, c'est très intéressant, on en reparlera tout à l'heure avec Galula, c'est que s'il y a deux écoles pour tuer une insurrection, c'est soit on essaye de gagner les cœurs et les esprits, on en reparlera, soit on essaye de punir la population en espérant que ça fasse quelque chose.
Et si je peux me permettre, quand même, la Seconde Guerre mondiale a montré que Doué avait un peu sous-estimé la résistance morale des populations. Donc. We'll be right back.
Alors on va passer à la suite. Donc on avait donc le quatrième de nos intervenants, c'est évidemment une voix que les auditeurs connaissent sans doute bien, parce que c'est Joseph Henrotin, rédacteur en chef du magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, qui intervient régulièrement pour présenter les numéros du magazine dans le podcast. Et alors on avait deux livres, on en a eu sept, on en a eu un plus un. Vous, Joseph, vous en avez qu'un, mais il est très gros.
Il est costaud.
Okay.
Il est costaud. Dans sa dernière édition, effectivement...
Donc attendez, je vais juste te dire, c'est donc quand même une voix importante dans l'histoire de la réflexion stratégique. C'est Hervé Couteau-Bégari, et donc son traité de stratégie, paru en 1999. Et on peut ajouter que c'est une voix qui a été très importante et longtemps très seule dans le paysage universitaire français, mais qui commence à être de plus en plus lue et redécouverte, et je crois traduite aussi.
Alors, lu, redécouvert, traduit, parce qu'effectivement, le traité en question, alors pour l'instant, il a déjà des traductions alors en roumain, en polonais, en portugais. Je me tourne aussi vers Martin, en fait, vu que nous sommes tous les deux aussi à l'Institut Stratégie Comparée. Il y en a qui sont en préparation en espagnol et en anglais, chez Oxford.
Oui, le roumain est arrivé avant l'anglais.
Oui, absolument.
Okay.
D'après ce que j'ai compris, par intérêt des forces roumaines, de l'école de guerre roumaine, qui se dit, bah voilà, on a quelque chose là qui est assez particulier, on va y revenir tout de suite, qui est effectivement d'abord l'œuvre d'un solitaire. D'un solitaire et d'une bête de travail. Hervé Couteau-Bégari, c'est 25 ouvrages en nom propre, alors pas uniquement sur la stratégie. Vous allez trouver des ouvrages sur la théologie, des choses plus historiques, sur Darlan notamment. Et également, alors si mon décompte est correct, 19 ouvrages en direction. Dont un ouvrage en fait en droit immobilier, si je ne dis pas de bêtises, je regarde là aussi Martin.
La réflexion stratégique mène à tout.
Réflexion stratégique mène à tout, donc on a affaire à une bête de travail, à quelqu'un d'extrêmement et de fondamentalement curieux, d'un dévoreur de livres, mais littéralement. Et ce traité de stratégie, pour le coup, est un petit peu le fruit, si vous voulez, de cet appétit pour le savoir, mais alors pris littéralement au sens de la multidisciplinarité. C'est-à-dire que Hervé Couteau-Bégari, c'est un politologue, c'est un historien, ça aussi était un juriste, donc vous voyez, il y a déjà un bon mixte de départ, avec une sérieuse appétence aussi pour la sociologie, pour la théologie, pour tout un tas de domaines divers et variés. Et du coup, finalement, ce traité de stratégie, il reflète, si vous voulez, cette appétence-là, en ayant une focalisation, pour le coup, sur la stratégie militaire, mais pas que, parce que très rapidement, en bon Clausewitzien, pour le coup, il ne se focalise pas uniquement sur l'histoire des idées ou l'histoire de la stratégie en tant que telle, il va beaucoup plus loin que cela, et produit donc là un ouvrage qui a, malgré son gros volume, on pourrait se dire que finalement c'est assez peu accessible, alors qu'en réalité ça l'est, vous pouvez tout à fait le lire un petit peu comme un dictionnaire, hein, petit bout par petit bout, et qui est aussi un succès de librairie, plus de 12 000 exemplaires vendus. C'est quand même assez remarquable pour un ouvrage quand même extrêmement érudit, extrêmement épais. Et donc, c'est un beau succès. Alors, de quoi parle-t-on ? On parle de quelque chose qui a été produit au départ pour les stagiaires de ce qui était encore le Collège interarmé de défense, alors qu'Hervé Couteau-Bégari y enseignait la stratégie, ce qui n'a pas été de soi, d'ailleurs.
Le Collège interarmé de défense est devenu
le prédécesseur donc, de l'école de guerre actuelle, qui a repris en fait l'école supérieure. École supérieure de guerre, si je ne dis pas de bêtises, qui a donc repris son nom. Et donc, au départ, ça n'avait pas nécessairement de soi dans les années 90. Hein. Certains, à l'époque, estimaient que, aussi paradoxal d'ailleurs que ça puisse paraître, la stratégie militaire ne devait pas être traitée par des officiers supérieurs. Étonnant. Ça devait être plutôt du niveau du CHEM, en l'occurrence. Voilà.
Par qui est-ce que ça
devait... Ah, ça devait être enseigné, alors pour le coup, plutôt au niveau du CHEM. Donc le niveau du CHEM, c'est le niveau supérieur, donc une fois que vous passez au-delà du colonel et que vous êtes sur ce qu'on appelle la piste aux étoiles, hein, et que vous êtes appelé à devenir un futur général. Et donc Hervé Couteau-Bégari, c'est aussi quelqu'un qui a été capable d'imposer, si vous voulez, pour le grand bien-être et pour le plus grand plaisir des stagiaires, je pense, je regarde le général Durieux qui a dû passer sous ses fourches caudines, et qui donc produit quelque chose qui est d'abord un... une sorte de super manuel, si vous voulez. Et donc, ce traité de stratégie, en fait, en est à sa septième édition. Donc, la première sort en sort en 99, la deuxième en 99 également. Là, elle dépasse tout juste les 1000 pages, 1006 si je ne dis pas de bêtises, pour en arriver aujourd'hui à la septième, à un peu plus de 1200, quelque chose comme ça. Sachant qu'au moment où malheureusement il est décédé, il travaillait déjà sur la huitième. Donc voilà, fonction double en fait de cet ouvrage qui est vraiment très particulier. Autant les autres auteurs sont dans une logique finalement d'étudier pour faire. Hervé Couteau-Bégary, en tant que professeur, il est là pour étudier, pour permettre de faire à, en l'occurrence, ses stagiaires en école de guerre. Donc on n'est pas tout à fait sur une même logique. Il n'y a pas d'idée. Enfin, il y a effectivement une vision couteau-bégarienne, il y a une vision qui est aussi très, très, très humaniste. Il y a de lui, quelque part, dans sa manière de traiter la stratégie, mais il n'y a pas de thèse centrale, en tout cas dans le traité. Il y a un décortiquage et une analyse d'un certain nombre de concepts, alors sous des angles plutôt historiques. La présentation des grands concepts, effectivement, bah, sous un angle plutôt, plutôt analytique. Trois livres, stratégie générale, stratégie particulière, géostratégie. S'il y a peut-être une thèse, elle est peut-être d'ailleurs là-dedans. C'est de faire en sorte que la géostratégie qui intervient en dernière partie réconcilie les deux et pour le coup devient un générateur finalement de stratégie générale et, ou de stratégie intégrale. Et donc au final, vous avez une espèce d'encyclopédie de la stratégie.
Mais donc c'est qui les 12 000 ?
Pardon ?
C'est qui les 12 000 qui l'ont acheté ? C'est-à-dire, non mais est-ce que ma question dite comme ça, elle est idiote, mais est-ce que c'est un ouvrage pour étudiants ? C'est-à-dire, est-ce que l'une des raisons du succès, c'est pas hypothèse, hein, que ça a été un des seuls manuels pendant très longtemps en français qui soit un peu pertinent et que des étudiants qui, alors, pas uniquement dans l'école de guerre, mais des gens qui s'intéressent aux questions militaires pouvaient un peu acheter que ça, quoi.
Concrètement, je pense que oui, je suis en train de réfléchir. C'est-à-dire un ouvrage qui ait une portée pareille, qui soit aussi transversal. Exhaustivité. Aussi exhaustif, effectivement. Qui soit quelque part asexué, c'est-à-dire qui ne prend pas, à part pour Clausewitz évidemment, mais qui ne prenne pas directement parti pour telle ou telle thèse et qui prenne justement cette hauteur qui permette d'en faire un traité en tant que tel. A priori, alors on a eu quelques dictionnaires de stratégie, etc., mais c'est pas la même chose. Et donc, je pense qu'effectivement, pour des étudiants en relations internationales et pas uniquement intéressés sur les questions militaires, pour les officiers, pour l'honnête homme intéressé par l'état du monde, etc., je pense qu'il y a eu pas mal d'acheteurs en leur temps.
C'est toujours le meilleur public de librairie, l'honnête homme intéressé.
Et avec un ouvrage qui reste d'une grande actualité et d'une grande pertinence.
Je vais ouvrir la parole. Je crois que Jean-Vincent voulait réagir sur Couteau-Bégary.
C'est un traité. Hervé Couteau-Bégary a été formé, on en parlait tout à l'heure, à la faculté de droit de Bordeaux par de grands juristes. Et la forme du traité est particulièrement appréciée par les juristes, par les universitaires juristes, avec cette idée que le manuel, c'est en quelque sorte le couronnement d'une carrière académique. Et Hervé Couteau-Bégary, je crois, enfin je ne l'ai pas aussi bien connu que certains autour de cette table, était particulièrement sensible à cet aspect-là, ce qui fait que, par ailleurs, la stratégie, comme vous l'avez rappelé à Alexandre Dublin, n'est pas enseignée à l'université. Elle est enseignée, en tout cas à l'époque où Hervé Couteau-Bégary a commencé la première édition de ce livre, fondamentalement, il y avait très peu de cours de stratégie. Ça pouvait exister ça et là, à Lyon 3 en effet, peut-être à Paris 2, à Sciences Po éventuellement, mais de manière assez latérale. C'est absolument pas central. Et donc, on a la rencontre de deux phénomènes. D'une part, la marginalité relative de la stratégie dans le monde universitaire français, en particulier dans les facultés de droit ou de relations internationales, etc. Et le caractère extrêmement académique et au contraire très codé au regard des attentes du monde universitaire de ce traité. Et donc, finalement, il a été, Hervé Couteau-Bégary, au-delà de l'école de guerre, le professeur de stratégie de ses étudiants qui n'avaient pas ou peu de cours de stratégie.
Rajouter une chose, Martin, c'est qu'il s'agissait aussi pour Hervé, qu'on a très bien connu, Joseph et moi, hein, et puis Général Durieux aussi, vraiment beaucoup aimé qui plus est, il s'agissait de créer une légitimité pour cette discipline. Il s'agissait de faire de la stratégie une discipline académique. Et donc, il a peut-être forcé la dose. Alors, il y avait une tendance chez lui, effectivement, à l'exhaustivité. C'était la quête d'Osiris. Il y avait toujours le livre qui manquait. Il lisait des bouquins turcs. Il trouvait en Europe centrale des traités de tactique turque des années 1730. C'était toujours la quête d'Osiris. Ça, c'était obsessionnel. Mais il y avait aussi l'idée de créer une légitimité. Et ce que je voudrais dire, parce que c'est important, c'est que ça peut paraître effectivement aride, juridique, avec tous ces articles, etc. Mais
ça cache un peu le personnage, parce qu'il était venu à la stratégie, il est un énarque que son travail administratif emmerdait royalement, et donc il se délassait en lisant les bouquins d'une collection qui avait une très laide couverture qui s'appelait « J'ai lu leur aventure », c'était une couverture bleue dégueulasse. Mais par contre, les bouquins étaient très bons parce que vous aviez toute la Seconde Guerre mondiale en particulier par les témoins et acteurs. Et en fait, derrière ce côté très intellectuel, il connaissait admirablement ce que pouvait être la vie d'un fantassin perdu au fin fond de la jungle birmane, parce que donc c'était un savoir qui se donne dans le traité de stratégie sous une forme très aride, très universitaire et tout, mais pour les gens qui ont suivi ses enseignements, c'était un homme d'une truculence et d'une drôlerie qui était absolument extraordinaire.
Ouais, moi, je dirais simplement diverger un tout petit peu sur le fait que je trouve pas que c'est si aride que ça, et que c'est vrai qu'on peut utiliser comme un dictionnaire ou comme un traité. On peut aussi le prendre de A à Z, et honnêtement je trouve que ça se lit assez bien, et il y a une sorte de trame, et c'est pas je trouve que c'est c'est pas aussi aride que ça.
Vous l'avez compris, vous pouvez encore faire partie des 12 000, augmenter encore le chiffre, parce qu'apparemment ça a l'air d'être un page turner. Joseph Arantin.
Oui, en fait, une des caractéristiques d'Hervé Couteau-Bégary, dont il m'avait d'ailleurs fait la leçon, j'étais très jargonnant en tant que jeune thésard, et il m'a dit un jour, il m'a dit, c'est le truc, c'est la ligne claire. Donc, vous pouvez penser des choses très très complexes, etc., mais vous les penserez réellement bien à partir du moment où vous les exprimerez de manière à ce que ce soit parfaitement intelligible pour n'importe qui dans la rue, ou à peu de choses près. Sachant, et c'est sans doute pas un hasard, qu'il était également grand fan de BD, et notamment d'Hergé et Tintin en particulier. Voilà, donc, comme quoi.
Le propre des grands manuels, c'est précisément la clarté, le caractère accessible. Et ça, c'est vrai que c'est très frappant en le lisant.
Eh ben, on va maintenant peut-être passer à la suite. Donc, je pense que les auditeurs du podcast connaissent probablement Elie Tenenbaum, donc chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, qui était l'un des tout premiers invités du podcast pour son excellent ouvrage « Partisans et centurions », où il retraçait l'évolution de la pensée sur la guerre irrégulière au XXe siècle, c'est-à-dire sur la guérilla, la contre-guérilla et tout ce qui sort de l'opposition frontale entre deux armées. Et il y analyse toujours, l'importance de David Galoula, qui est l'un des grands théoriciens de la contre-insurrection au XXe siècle, c'est-à-dire globalement de comment aller débusquer et combattre des guérilleros, ce qui est devenu une préoccupation de plus en plus importante depuis la fin de la guerre froide, et notamment ces dernières années. Et on a beaucoup parlé de Galoula, on en parle beaucoup depuis quelques années, puisque on a notamment beaucoup dit que c'était le livre de chevet du général Petraeus, donc le commandant en chef des armées américaines, parce que ça aurait donné des clés de compréhension pour comprendre notamment ce à quoi il faisait face en Afghanistan et en Irak. Alors, allez-y, parlez-nous peut-être de ce penseur qui a connu, pour le coup, c'est vraiment exactement dans l'idée, parce que c'est un penseur qui a connu essentiellement une immense postérité, mais peut-être pas tant que ça sur le moment.
Et une postérité tardive, absolument. Pour la petite histoire, moi j'ai découvert l'existence de David Galoula en 2007. J'étais jeune stagiaire à l'IFRI à l'époque, et effectivement, les Américains étaient embourbés, on disait, en Irak dans des problématiques de lutte contre des mouvements terroristes et insurrectionnels. Et à l'IFRI, on avait organisé un séminaire sur la question, en invitant un certain nombre de militaires américains, d'officiers qui s'étaient penchés sur la rédaction d'une nouvelle doctrine, un nouveau manuel de contre-insurrection. Et ils étaient tous arrivés à Paris avec des grands yeux, en disant « mais c'est formidable, la France, parce que c'est de France que vient le grand auteur qui nous a inspirés, qui va nous donner la solution pour la sortie de cette guerre d'Irak ». Et c'est David Galoula. Et là, il y a eu un silence gêné dans l'assistance, puisque du côté français, personne n'avait jamais entendu parler de ce David Galoula, qui est présenté dans la préface à l'édition française qui a finalement eu lieu, comme justement le Clausewitz de la contre-insurrection. Donc on retourne à
on n'en sortira pas, mais c'est très bien.
Et un débat qui, à mon avis, et un titre qui, à mon avis, est largement usurpé, quels que soient les mérites qu'on peut trouver
Du coup, en plus, vous le vendez pas très bien. Si c'est celui qui devait aider à sortir les Américains du Bourbier d'Irak, c'est...
Et, bon, alors, avec des, des succès tactiques, mais qui effectivement se sont trouvés confrontés à une limite stratégique et qui est bien, à mon avis, le problème du clé du livre, mais qui montre potentiellement son succès. Pour vous donner quelques éléments de cadrage. Et l'une des raisons et l'une des explications de sa méconnaissance par les Français jusqu'à une période récente, l'ouvrage date de 1964. Il a été écrit effectivement par un officier français, le lieutenant-colonel David Galula, qui a fait toute sa carrière dans l'armée de terre, qui a quitté en 1962 l'armée comme un certain nombre d'officiers de sa génération à la suite des événements politiques et militaires qu'on connaît de la fin de la guerre d'Algérie. A écrit cet ouvrage en anglais. Donc c'est un officier français qui écrit en anglais donc qui n'a été lu par ses pairs français dans sa langue maternelle qu'après sa traduction à l'initiative du général Desportes qui commandait à l'époque le centre de doctrine et d'enseignement et d'emploi des forces. Qui avait poussé à sa traduction, d'où ça, encore une fois, sa renommée tardive.
Il est prophète dans son pays, enfin, en l'occurrence.
Effectivement. Il écrit aux États-Unis depuis une bourse qu'il a obtenue de l'université d'Harvard, qui est un point intéressant parce qu'il montre aussi l'influence grandissante dès cette époque des années 60 de la pensée stratégique américaine et aujourd'hui, on peut le dire, très largement dominante dans le modèle intellectuel des études stratégiques. Il a travaillé donc à l'université de Harvard et aussi pour la RAND Corporation, qui est un think tank donc créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Washington, qui s'est beaucoup intéressé aux questions de dissuasion nucléaire, mais aussi de guerre irrégulière, donc dissuasion nucléaire et guerre irrégulière, qui sont les deux voies de contournement de la guerre conventionnelle, qui finalement était arrivée à la fois à son apogée et à son champ du cygne avec la Seconde Guerre mondiale, qui avait les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki d'une part, et puis les destructions de la guerre conventionnelle, montré les limites de la guerre industrielle, d'État puissance contre d'autres États puissance, avec des stratégies directes, finalement, telles qu'elles continuent à dominer dans notre imaginaire, finalement, son inutilité ou les problèmes d'utilité politique qu'elle pouvait poser. Donc Galula se pose cette question de la guerre irrégulière qui est l'une des deux voies de contournement de la guerre conventionnelle et qui domine la guerre froide au moins autant que la problématique nucléaire, et ça est parfois oublié. On dit souvent que les enjeux de guerre régulière, c'est post-guerre froide, mais en fait l'essentiel...
Oui, c'est ça, je l'ai dit en le disant, je me suis dit voilà. Il va me reprendre à tous les coups, et vous avez bien raison. C'est le fait est que la guerre froide est aussi une guerre largement par proxy, c'est-à-dire c'est pour ne pas se battre directement, ils se battent à travers d'autres personnes, mais souvent à travers de la guérilla.
Et que la guerre froide n'a pas été froide partout, et que partout où elle
est... En tout cas, elle n'a pas été froide pour tout le monde.
et que partout où elle ne l'a pas été, elle a été notamment chaude sous forme de guerre régulière. Et en 1964, à l'époque où Galou l'a écrit, on est évidemment à la veille de la guerre du Vietnam, qui va être le grand conflit irrégulier de cette période. Donc en ce sens, Galula est effectivement le produit d'une situation géopolitique qui intéresse particulièrement les Américains, mais il est aussi le produit très français d'une école et d'une expérience de guerre très française, qui sont celles des guerres de décolonisation des 15 années, de 1945 à 1962, pour faire simple, qui ont dominé l'expérience de guerre d'une armée française au sortir de la Seconde Guerre mondiale, marquée notamment par le conflit d'Indochine et d'Algérie, même s'ils ne sont pas les seuls, et au cours de laquelle il y a eu une véritable effervescence d'une pensée stratégique française que Gabriel Périès, qui est un auteur de sciences politiques, a rassemblé sous l'item de doctrine de la guerre révolutionnaire. Le terme de doctrine est un petit peu abusif parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'écoles, etc. Mais donc Galula, finalement, fait.
Mais du coup,
également
il dit quoi partie. C'est quoi
ça, alors, c'est la doctrine de la guerre révolutionnaire, finalement, c'est la pensée globalement selon laquelle les doctrines insurrectionnelles peuvent être combattues par des armées régulières si elles assument le centre de gravité nouveau de ces guerres irrégulières, qui est bien le contrôle de la population par des moyens non seulement militaires, mais aussi par des moyens politiques, psychologiques. Et
c'est la vieille phrase de gagner les cœurs et les esprits, c'est ça ?
Alors, gagner les cœurs et les esprits, c'est le volet, on va dire, psychologique, mais qui n'est pas le seul. Et la doctrine de la guerre révolutionnaire française était effectivement intéressée à la guerre psychologique et à la conquête des cœurs et des esprits, mais aussi à la conquête des corps et d'un contrôle extrêmement physique et coercitif des populations via des logiques de regroupement, de surveillance policière. Et donc ces deux volets, qui sont les deux volets de la contre-insurrection autour du contrôle des populations, continue à irriguer très largement l'ouvrage de Galula, et en cela on peut dire que Galula est un penseur français qui continue à véhiculer un certain nombre de ses idées. Maintenant, il a aussi des spécificités propres qui sont liées à son parcours. Galula n'a pas exactement le même s'il a fait la guerre d'Algérie, il n'a pas le parcours type des officiers centurions de cette époque de l'armée française, notamment il n'a pas fait l'Indochine, mais en revanche il a fait la Chine, ce qui est très rare pour les officiers de l'époque. Il lit le chinois et il a lu Mao dans le texte, et Mao Zedong était le grand penseur de la guerre révolutionnaire du côté insurrectionnel, et c'est ça la particularité de Galula, c'est qu'il a passé de longues années en tant qu'attaché militaire à Pékin et puis à Hong Kong, et qui a été un poste d'observation pour lui, pour lire, étudier et regarder comment les guerres irrégulières, au-delà même de l'Indochine puis de l'Algérie, mais il s'est intéressé à ce qui se passait aux Philippines, à ce qui se passait en Malaisie et également en Chine continentale pendant la période de 45 à 49, donc sur cette forme de guerre, encore une fois, irrégulière et révolutionnaire, terme qu'il revendique lui-même.
Et je ne saurais trop conseiller le livre d'Elie, donc Partisans et Centurions, sur la manière dont toute cette pensée, toute cette doctrine s'est mise en place dans ces années-là, pas qu'en France, mais aussi avec les Anglais et les Américains, où on voit ça, enfin, genre, y a un podcast là-dessus, donc je peux vous y renvoyer aussi, mais où littéralement tout ça est mis en place vraiment entre le bridge et le whisky le soir, entre officiers qui discutent. Est-ce que quelqu'un veut réagir, soit sur Galula lui-même, soit peut-être sur la mode de Galula, qui est effectivement très à la mode ces dernières années? Jean-Vincent, je crois que vous voulez intervenir.
Oui, juste pour réagir sur cette notion de guerre irrégulière, de manière peut-être plus générale, qui est quand même révélatrice d'une sorte d'embarras de la pensée stratégique. Parce que, justement, si on revient, puisqu'on y revient toujours à Clausewitz, l'opposition pertinente, c'est l'opposition entre la grande guerre et la petite guerre, avec cette idée qu'il y a cette guerre en grand, avec l'idée de la bataille décisive, etc., qui est un seul aspect, hein, de la grande guerre, bien entendu, est le plus rare, et la petite guerre, avec cette idée que c'est à la fois une tactique et puis qui peut avoir une dimension stratégique lorsque, précisément, il y a une dimension révolutionnaire qui peut adosser la petite guerre à un objectif politique qui est lié à la révolution. Et au fond, aujourd'hui, alors, on emploie toujours le terme de petite guerre, mais le fait que le terme de guerre irrégulière se soit imposé dénote un embarras qui est qu'on a beaucoup de difficultés justement à penser ce type de guerre en dehors de la norme politique et juridique que constituerait la guerre régulière, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvre, sinon qu'elle serait apparentée à la guerre interétatique, à la guerre entre États. Or, précisément, finalement, ce moment de l'État... Ce moment politique de l'État moderne, c'est un moment, à l'échelle de l'histoire universelle, qui est relativement exceptionnel. Puisque les formes du politique ne sont en aucun cas réductibles à la forme de l'État moderne, qui est une forme bien spécifique, qui reste évidemment extrêmement résiliente aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire que les États vont disparaître, bien entendu, mais qu'on doit penser la guerre politiquement au regard de cette complexité des formes du politique. Et le terme de guerre irrégulière, à mon avis,
est le symptôme de notre incapacité, j'emploie un mot un peu fort pour susciter le débat, à être fidèle à ce message qui est celui de Clausewitz.
Oui, absolument. Et là, le terme de guerre irrégulière révèle effectivement l'ethnocentrisme et l'européanocentrisme qu'on peut avoir, parce que finalement, la guerre régulière, c'est un phénomène au départ né dans l'Europe de la Renaissance, dans des conditions politiques, économiques, sociales très particulières, qui ne représente qu'une exception à l'échelle de la guerre comme phénomène anthropologique dans l'histoire de l'humanité. Et Galoula, en s'étant décentré, justement, en ayant quitté son giron européen, étudié les textes chinois et des expériences dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, mais qui continuait à dominer la majeure partie de la planète, a fait cet effort de mettre de côté ce qu'il pouvait y avoir de contingent dans la guerre conventionnelle telle qu'elle se pratiquait, et pour retrouver aussi une certaine universalité dans son étude.
Et juste très rapidement, on en revient de Galoula, ou c'est toujours le best-seller aux
États-Unis? Le terme de Galoula comme Clausewitz de la contre-insurrection a ça de vrai qu'il y a deux Galoula comme il y a deux Clausewitz. Tout comme dans Clausewitz, vous avez le Clausewitz théoricien de la nature de la guerre et qui continue à être universel, et vous avez un Clausewitz peut-être plus daté dans d'autres d'autres parties de son œuvre au-delà du livre 3 et avant le livre 8 qui peuvent être plus ancrés dans son époque. Et ben, de la même manière, je dirais que Galoula continue à avoir un diagnostic qui est intéressant, et son analyse de la nature de ce qu'est une insurrection et des dynamiques et du centre de gravité qui peut l'animer, à mon sens, continue d'être valide. En revanche, dans les recommandations de doctrine et de type d'opération qu'il propose de mener, là on est effectivement sur quelque chose d'assez daté qui correspond probablement plus à ce à quoi les sociétés, notamment les sociétés occidentales, sont prêtes à s'incliner. C'est-à-dire que il est plus possible aujourd'hui de quadriller un pays parce que avec des ratios d'un soldat pour 20 habitants comme il le propose, tout simplement parce qu'on était à l'époque dans des logiques de contrôle de territoire dans une logique coloniale qui sont évidemment plus dans l'air du temps aujourd'hui.
Joseph, je crois que vous vouliez intervenir très rapidement.
Très rapidement, en fait, sur la question de l'irrégularité, je crois qu'on prend la question par un mauvais bout, quelque part, et par un bout sans doute un petit peu trop juridique, parce qu'en réalité, effectivement, la guerre, et pour le coup, Mao le montre très bien dans sa progression stratégique depuis la mobilisation politique jusqu'en fait l'affrontement force contre force régulier. La guerre et la stratégie, par ricochet, finalement, sont des phénomènes uniques. Mais par contre, et on en revient à Clausewitz, c'est la vision du caméléon, la bestiole reste fondamentalement toujours la même. Par contre, en fonction des contextes dans lesquels elle est, elle va prendre des couleurs qui vont être différentes. La distinction entre la nature et le caractère. Et en l'occurrence, quand on parle de régulier versus irrégulier, je pense qu'on n'est pas tellement à un niveau politique très, très élevé. En fait, on est sur une question de voies et moyens. On fait avec ce qu'on a, tout simplement. Et quand on peut avoir plus, bah, on se débrouille pour travailler avec plus.
Alors, on va passer la parole. Je vais passer la parole au général Durieux. Juste pour remarquer que, quand même, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de militaires, directs ou indirects, dans ce qu'on a cité, que ce soit Clausewitz, que ce soit... Alors, on n'était pas militaire, mais que ce soit l'amiral Castex, que ce soit Julio Douay... En fait, ce que ce soit Galoula, il n'y en a aucun qui a fait une très très belle carrière, en fait, si on fait le bilan. Ils ont tous fait une carrière, alors que c'est très vrai, on le sait beaucoup pour Clausewitz, mais il n'y en a aucun qui a eu une carrière vraiment météorique de grand chef, de grand commandant, ce qui dit peut-être quelque chose de la position du théoricien et de la manière dont il a besoin d'avoir un peu de recul pour écrire.
Il y a d'autres exemples qui infirmeraient votre proposition.
Tout à fait, je ne parlais
très illustre dans l'histoire française.
Je vais donc laisser la parole au général Benoît Durieux, chef de cabinet militaire du Premier ministre, mais aussi, je l'ai dit, l'un des meilleurs spécialistes de Clausewitz en France, en tout cas là, au moins de la réception de Clausewitz en France, sur lequel il a publié un ouvrage en 2008, et qui est aussi l'un des directeurs de cet ouvrage monumental et remarquable il y a quelques années, qui est le Dictionnaire de la guerre et de la paix, publié au PUF. Et donc, pour faire un pas de côté, vous avez donc choisi de relire Clausewitz, mais de le relire en relisant Hannah Arendt, dans un passage de « Qu'est-ce que la politique ?», c'est-à-dire un rassemblement de textes jamais vraiment terminé par Arendt. Je crois que c'est un ouvrage que lui avait demandé son éditeur américain, sans doute parce qu'il a dû se dire que ça ferait bien un gros bouquin d'Anna Arendt définitif sur la politique. Mais en fait, elle ne l'a jamais vraiment terminé. Et donc, c'est une sorte de collection qui a été publiée pour la première fois, je crois, en 1995.
Oui, c'est ça, merci beaucoup. Oui, c'est, en fait, je crois que c'est une série de conférences qui ont été par la suite, dans les années 50, publiées. Et effectivement, c'est pas un ouvrage en tant que tel, en fait, c'est une collection de conférences. Et d'ailleurs, moi, le texte sur lequel je vous propose de réfléchir aujourd'hui, sur lequel j'ai réfléchi pour préparer ce podcast, c'est pas tout le livre, hein, c'est un des textes qui s'appelle La question de la guerre dans Qu'est-ce que la politique ? Alors, pourquoi j'ai choisi ? Je me suis dit que c'était une bonne occasion de parler de ça, parce que, fondamentalement, je suis assez convaincu que le problème majeur qui se pose à nous et qui se pose à tous ceux qui cherchent à réfléchir sur la guerre aujourd'hui, ça a pu changer suivant les époques, mais c'est pas, à mon avis, fondamentalement la question technique du type d'armement. Je ne pense pas que ce soit non plus la question tactique de la doctrine militaire. Je ne pense pas que ce soit la question stratégique de l'adaptation des combats au but de la guerre, d'une manière générale, même si tous ces sujets-là sont évidemment très importants. Je pense que c'est une question qui est encore au-delà, qui est un peu métastratégique, qui est de la conception que nous avons de la guerre et de ce à quoi cela peut servir. Et je pense que Hannah Arendt, dans ce petit passage, je trouve, donne un éclairage très précieux qui permet, à mon avis, de donner une interprétation de Clausewitz ou d'éclairer peut-être ce que Clausewitz avait en tête. Alors que, je m'empresse de le dire, enfin, je ne suis pas un spécialiste absolu d'Hannah Arendt, je n'ai pas l'impression qu'elle est... Je ne sais pas si elle a lu Clausewitz, mais en tout cas, elle ne le cite pas, en tout cas dans ce passage, et je ne sais pas si elle le cite beaucoup par ailleurs. Alors, on peut repartir quand même très vite de Clausewitz. Qu'est-ce que dit Clausewitz ? On peut retenir des tas de choses de Clausewitz. Moi, je vous propose, et en tout cas pour ce soir, de retenir deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que la guerre pour Clausewitz, au fond, à mon avis, c'est une interaction, et ça, c'est absolument fondamental. Et je dirais que c'est une triple interaction. C'est d'abord une interaction entre les deux belligérants. C'est ensuite une interaction entre le guerrier et le politique. Et puis, c'est une interaction beaucoup plus large entre la guerre et son contexte et son environnement. Et évidemment, ces trois interactions, elles interagissent elles-mêmes, ça fait en quelque sorte une quatrième interaction. Premier volet qui me paraît très important chez Clausewitz. Et deuxième volet important, c'est que Clausewitz dit, et ça intervient, je crois, dans le livre 8, il y a deux types de guerres. Il y a la guerre d'anéantissement, et puis la guerre aux fins de négociation pour conquérir un territoire. Et c'est là-dessus que je pense que Hannah Arendt, dans ce petit passage, donne un éclairage intéressant. Parce qu'elle part, en fait, de la guerre de Troie, qui reste un peu la matrice, en fait, de toute guerre, au moins pour l'Occident. Et elle oppose, en réfléchissant sur la guerre de Troie, deux conceptions de la guerre. Et il y a d'abord, chez elle, la guerre des Grecs. Et la guerre des Grecs, qui est pour elle une guerre d'anéantissement. Et pour les Grecs, elle dit, chez les Grecs, dans la cité, il n'y a pas la guerre, parce que la ville, la cité, c'est le lieu de la politique. C'est la rencontre des hommes libres, des citoyens. La guerre, c'est à l'extérieur des remparts. La guerre, c'est le lieu de la contrainte, donc il n'y a pas d'hommes libres. Donc il ne peut pas y avoir de politique. C'est les étrangers, les barbares, ce n'est pas des citoyens. Il ne peut pas y avoir de politique. Et d'une certaine façon, elle explique-t-elle, la politique étrangère, c'est la continuation de la guerre. Donc c'est une inversion d'ailleurs de la formule de Clausewitz. Et puis ce qu'elle ajoute, c'est que dans ce cadre-là, faire la guerre, c'est donc anéantir un peuple. Mais anéantir un peuple, c'est pas tuer beaucoup de monde. Anéantir un peuple, c'est mettre fin à sa culture, à sa constitution, à ce qui l'amène dans le monde. Et c'est anéantir en particulier la relation qu'on a avec ce peuple. Autrement dit, anéantir un peuple, c'est aussi anéantir, s'anéantir soi-même à certains égards. Parce que un peuple, comme un individu, ne vit que par les relations qu'il a avec les autres peuples. Et moins il y a de peuples différents sur Terre, moins il y a un monde qui existe. Et donc ça, c'est son interprétation, sa philosophie, la façon dont on le présente, le mode de guerre grec. Alors je ne suis pas ni hellénisant, ni spécialiste de la Grèce antique, donc peut-être que ça peut être contesté, mais en réalité, ça me paraît extrêmement intéressant parce qu'elle oppose à ça la guerre chez les Romains. Et les Romains, explique-t-elle, d'après Virgile en tout cas, ce sont, comme vous le savez, des Troyens qui ont fui et qui, eux, ont passé un pacte avec les habitants de l'Italie. Et ça renverse complètement la perspective. Autrement dit, pour les Romains, la guerre, c'est pas dans la cité, la politique, c'est pas dans la cité, c'est à l'extérieur. C'est quand on fait la guerre, on crée un pacte, et là, on crée une relation politique. Et de proche en proche, on étend l'influence, l'empire. Et donc, la politique étrangère, c'est premier dans l'invention de la politique, c'est pas la politique intérieure. Et elle dit même une rencontre guerrière entre deux parties, entre deux pays, mais entre deux factions dans une guerre irrégulière, c'est peut-être meurtrier, il y a peut-être de la haine, mais ça reste quand même un événement unique qui aura deux faces, une phase victoire d'un côté peut-être et une phase défaite de l'autre, mais qui sera un événement unique et qui va laisser des souvenirs communs aux deux parties. Et donc on crée finalement quelque chose qui est commun, donc on rassemble les gens. Et d'une certaine façon, c'est ce qui est à l'origine, et ça c'est la nouvelle loi, et c'est ce qui est à l'origine, chez Hannah Arendt en tout cas, de la loi comme un contrat. Et à la différence de la loi comme une... qui s'impose d'une façon plus verticale chez les Grecs. Et donc,
La guerre crée une communauté, quoi.
Voilà, la guerre crée une communauté. D'une certaine manière, la Première Guerre mondiale, c'est un exemple finalement assez frappant de tout ça. C'est-à-dire que finalement, avec les Allemands en particulier, au bout de plusieurs centaines d'années, on s'est quand même bien mis sur la gueule, pour être trivial, eh bien, on a créé quelque chose de très commun. Et au fond, j'espère que ça durera, on a créé ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Et donc, je crois que dans ces deux, ce qui m'a paru intéressant, c'est que dans ces deux conceptions de la guerre, on voit très bien qu'il y a aujourd'hui deux idées, deux conceptions très différentes de par le globe, de ce que c'est que la guerre, de à quoi ça sert. Est-ce que la guerre, c'est pour anéantir l'adversaire, assimilé aux barbares et au mal, ou est-ce que c'est pour rentrer en contact avec lui dans le but de trouver un accord politique? Dans aucun cas, c'est aussi net que ça, mais on voit très bien quand même qu'il y a des régions du monde ou des pays ou des civilisations où c'est plutôt d'un côté et puis d'autres où c'est plutôt de l'autre.
Est-ce que quelqu'un veut rebondir ? Jean-Vincent ? Alors Jean-Vincent, qui par ailleurs, dans La Ruse et la Force, parle beaucoup des conceptions de la guerre antique, et notamment, justement, qui remonte à tout ça et à la guerre de Troie.
Oui, parce qu'en effet, et Benoît Durieux l'a magnifiquement rappelé, cette question de la guerre, il a parlé de métastratégie, moi je parlerai avec Raymond Aron de politique. Et comme d'ailleurs mon maître Pierre Manant, qui analyse aussi les questions relatives à la guerre de ce point de vue, c'est-à-dire non pas avec le point de vue du spécialiste de la stratégie, que je ne suis pas personnellement, contrairement à mes camarades qui sont là, mais comme avec l'idée que la guerre est un révélateur de problèmes fondamentaux et qu'elle est, comme je disais en commençant, la grande affaire humaine. Et de ce point de vue, c'est pour ça que Clausewitz, qu'on ne peut être que clausewitzien. Parce que fondamentalement, Clausewitz est le
probablement l'interprète le plus pénétrant de cette nature de la guerre qui ne change pas et qui il est celui qui décrit le plus précisément possible les choses. Pour revenir à la question de la guerre grecque ou romaine, la guerre grecque elle-même est divisée entre ce qu'on appellerait volontiers avec les historiens la guerre d'anéantissement et la guerre dite rituelle. C'est-à-dire que lorsque Benoît, par exemple, évoque cette idée que ce qui est important pour les Grecs, c'est la constitution de la cité, la constitution de la police, les guerres, disons, rituelles menées à une époque spécifique de l'année, sur la plaine dégagée, ce sont des guerres qui ont vocation à précisément à unir la cité, à provoquer ou à approfondir ce sentiment civique d'unité, l'hoplite athénien étant évidemment le modèle idéal typique de ce sentiment politique d'appartenance. Et puis à côté de ces guerres rituelles, limitées nécessairement dans le temps et dans leur objectif, il y a la guerre d'anéantissement. Et donc cette distinction que Arène fait entre les Romains et les Grecs, elle existe déjà chez les Grecs et à nouveau chez les Romains. Mais avec cette idée chez les Romains qui me paraît beaucoup plus mortifère, qui est que si chez les Grecs, la pluralité des cités est quelque chose qui doit demeurer, avec cette idée que la fragmentation est à la fois problématique et en même temps nécessaire, qu'il doit y avoir plusieurs cités, de même qu'il doit y avoir plusieurs États, les Romains, par leur projet impérial, défendent l'idée d'une unification du monde et que, d'une certaine manière, la guerre permettra la paix par l'Empire, ce qui me semblait être une des idées les plus dangereuses qui soit politiquement et dont on a bien vu les effets à l'époque de l'histoire romaine, comme d'ailleurs aujourd'hui.
Non, absolument. Et d'ailleurs, en réalité, ce que suggère la réflexion d'Anna Arène, c'est que à la fois les Grecs ont fini par disparaître à force de guerre d'anéantissement, expédition en Sicile, etc. Et puis les Romains ont fini par disparaître à cause de cette extension. Et donc on voit très bien que la solution n'est ni dans un sens ni dans l'autre. Et puis je rajouterais que Hannah Arendt, effectivement, j'ai pas voulu être trop, mais mentionne un peu cette distinction au sein de la guerre grecque, puisqu'elle dit il faut distinguer ça de la lutte entre Achille et Hector, là, qui explique bien cette guerre plus ritualisée en réalité.
S'il n'y a pas de questions particulières, alors je vais vous remercier tous et toutes. Donc, c'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Encore un grand merci à tous les invités, merci beaucoup au public d'être venu pour cet enregistrement en public au CDEM. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, là pour une fois vous pouvez me les dire de vive voix. Mais sinon c'est sur les réseaux sociaux ou par mail vers l'IRSEM. Puis abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, et merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.